Plan Large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan Large, l'encyclopédie vivante du cinéma, aujourd'hui V comme Varda, Agnès Varda, la documenteuse, avec Brigitte Rollet, Marcos Uzal et Charlotte Garçon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Tout l'été, nous vous proposons de réécouter de grands moments de l'émission centrés autour de la figure du franc-tireur, ces cinéastes qui n'en font qu'à leur tête et qui, aussi bien à la marge qu'au centre du système, ont su tracer leur route sans concession. Jusqu'à fin août, dans une parfaite parité franco-américaine, on parlera donc de Samuel Fuller, de Jacques Rivette, de Larry Clark, Jean-François Stévenin, Robert Aldrich, Alain Cavalier et Al Hartley. Et on commence dès aujourd'hui. Aujourd'hui avec Agnès Varda, quelques mois avant sa disparition le 29 mars dernier, alors que la Cinémathèque française s'apprêtait à l'accueillir pendant 15 jours et à l'occasion de la sortie chez Arte d'un coffret de 7 DVD rassemblant les incontournables du cinéma documentaire de l'infatigable glaneuse d'images et en DVD individuel de 3 de ses longs métrages récemment restaurés, Le Bonheur, L'une chante, l'autre pas et Jaco de Nantes, nous avions consacré un plan large à l'immense cinéaste, précurseur de la nouvelle vague avec La Pointe Courte dès 1954, seule femme de cette bande de garçons avec Cléo de 5 à 7, Lion d'or à la Mostra de Venise, en 1985 avec Sans toi ni loi, une quarantaine de films de tout format, tout support et toute durée, en noir et blanc comme en couleur et parfois les deux, de fiction et documentaire et parfois des deux, qui se jouent des frontières et des genres, cinématographiques comme sexuels, un cinéma vagabond et fragmentaire, ludique et audacieux, qui tient en deux mots, liberté et invention, des formes comme des moyens de production. On se replonge dans cette œuvre à la fois très personnelle comme un journal intime des différents moments de sa vie et très ouverte aux autres, notamment à ceux que la société a mis sur le côté, à la marge, avec Brigitte Rollet, chercheuse en études cinématographiques au Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines et enseignante à Sciences Po, et le critique Marcos Uzal. En fin d'émission, Charlotte Garçon nous parlera d'une autre précurseur du cinéma au féminin, la fameuse flibustière Nelly Kaplan, dont deux des meilleurs films, Papa les petits bateaux et Charles et Lucie, sont sortis en DVD en version restaurée, Le Bonheur.
On y voit le bébé. Petit bébé, fais-moi sourire. Garde-moi. Et ça, je fais de dos.
C'est bien. C'est une maison de poupée pour Isabelle plus tard?
Non, c'est une cabane de trappeur pour Robert et pour moi. Les filles pourront pas y venir.
Même pas moi?
Toi, tu as tous les droits. Sauf celui de porter toujours ce garçon.
Il est si petit.
Faut qu'il marche.
Là, je m'arrête un peu, je vais revenir.
T'inquiète pas, on n'est pas aux pièces.
C'est ça que j'aime quand on est tous ensemble. Mais il me manque Gisou.
Elle ne quitte pas le berceau. D'ici qu'elle me demande une petite sœur.
J'aimerais bien aussi qu'on ait beaucoup d'enfants. Il faut attendre, je crois.
Oui, moi aussi, je crois.
Et puis je ne veux pas que tu sois fatiguée. Il faut que tu aies du temps pour qu'on se repose ensemble.
Une certaine idée du bonheur, ça pourrait être un documentaire sur Jean-Claude Drouot, le comédien qui jouait Thierry Lafronde à l'époque à la télévision, et sa famille, puisqu'il joue avec sa femme qu'on a entendu, ses enfants qu'on a entendu, et puis la fiction va s'inviter sous la forme d'une autre femme, film très étonnant, très bizarre en fait, sous son apparence comme ça de bonheur et de musique de Mozart qui vient baigner tout ça. Le bonheur pour qui d'abord, et c'est un film qui a fait beaucoup scandale à l'époque, et vous-même Brigitte Rollet qui le montrait régulièrement à vos étudiants, vous vous rendez compte que c'est un film qui génère encore aujourd'hui un vrai malaise.
Oui, d'autant plus que ça n'a l'air de rien. Mais c'est très propre à Varda, ça. Elle arrive comme ça, un petit peu de biais. Elle a l'air de montrer quelque chose. Et d'ailleurs, quand on regarde la réception de ce film, on se rend compte qu'il y a eu un grand malentendu. C'est-à-dire que à l'époque, certains ont trouvé ça mièvre et n'ont pas du tout vu le potentiel transgressif et potentiellement explosif aussi. Par contre, le fait que le film ait été interdit au moins 18 ans montre bien qu'il y en a qui avaient bien compris qu'il y avait quand même quelque chose là-dessous qui était plus que des belles images d'un bonheur dont on peut voir qu'il résiste à tous les coups du destin. Et en effet, mes étudiants, alors il y a toujours la question autour de la disparition de Thérèse, si elle laisse là encore un certain flou sur la cause de cette disparition.
Ce qui est souvent le cas chez Agnès Varda, oui. C'est que souvent elle ne va pas nous montrer d'où viennent les personnages, qui ils sont, il y a un refus du psychologisme, refus d'expliquer des choses, elle nous donne des choses à voir et puis on a un travail à faire nous aussi.
Oui, mais c'est toujours un peu, et justement le fait qu'il y ait des multiples lectures de ces films, je trouve ça contribue à la richesse du cinéma de Varda, qui est pas donné tout cuit avec une seule lecture. Et je trouve que à la fois dans son travail sur la forme et aussi dans des scénarios qui sont toujours extrêmement simples. Enfin, la Nouvelle Vague n'est pas connue pour avoir des scénarios très très compliqués, mais il y a une volonté de dire beaucoup avec peu. Et en utilisant, là, c'est l'usage qu'elle fait des couleurs, la façon de... un choix de montage aussi qui raconte plus que simplement la vie quotidienne d'un couple de manuel, hein, puisqu'elle est couturière et lui est menuisier, même si cette dimension-là est tout à fait intéressante aussi.
On a un effet d'inquiétude qui apparaît presque dès le générique. Marco Souzal, je ne sais pas si vous avez revu récemment ce film, mais on a ce plan général un peu flou d'une famille qui s'avance au lointain. C'est une lumière d'été. Et puis on a ces plans très abrupts d'un tournesol. Et à bien regarder, ce tournesol se fane au fur et à mesure du générique.
Oui, parce que je crois que c'est un film où apparaît aussi sous cette image très colorée, presque de tapisserie, on pourrait dire, de l'aspect cruel aussi qu'il y a dans le cinéma de Varda, mais la cruauté qui est celle de la vie, c'est-à-dire l'omniprésence de la mort sous la joie, sous les couleurs. Et c'est une chose peut-être qu'on oublie un peu chez Varda, c'est qu'il y a ces deux aspects-là. Peut-être l'image qu'elle a donnée avec ses derniers films, c'est plutôt une sorte de légèreté, comme ça, de un peu guillerette et tout. Et en fait, quand on regarde de très près son œuvre, on s'aperçoit qu'il y a toujours cette présence de la mort qui est là. Je me souviens c'est Jean-Claude Guiguet qui disait de Jacques Demy. Je dis ça parce que Le Bonheur me semble être peut-être le film où elle rencontre quelque chose du cinéma de Demy. Et Jean-Claude Guiguet disait des films de Demy que c'est des bouquets de fleurs suspendus au-dessus d'un gouffre. Et Le Bonheur, c'est vraiment ça, quoi. Et justement, les fleurs, la nature, c'est à la fois, dans l'idée du naturalisme, c'est à la fois la beauté des fleurs, mais c'est aussi l'omniprésence de la mort, des choses qui se fanent et qui pourrissent.
Oui, et puis il y a aussi dans cette façon de jouer avec une image du bonheur publicitaire. En fait, c'est surtout ça qui est privilégié. Et moi, j'aime beaucoup la façon dont, n'ayant pas de culture cinématographique, elle le dit elle-même quand René l'a aidé à monter La Pointe Courte, il lui dit « Ah tiens, ça me rappelle un plan de La Terre Tremble ». Et elle dit « C'est quoi La Terre Tremble ?» Donc elle n'a pas du tout. Et du coup, cette virginité lui permet de vraiment innover. Son cinéma est très inventif. Et là, dans les couleurs, cette façon de jouer sur les images publicitaire. Donc il y a ce mélange d'une culture populaire et d'une culture d'élite, puisqu'on voit à un moment une scène du déjeuner sur l'herbe de Renoir que les personnages regardent à la télévision. Et donc c'est constamment, je trouve que c'est aussi une illustration de cet entre-deux dans lequel elle se trouve par rapport à aux cultures et la manière de filmer ces scènes sous un mode supposément publicitaire, mais avec un fond en effet qui est un petit peu tragique, même si on s'en rend pas nécessairement compte tout de suite. Je trouve que c'est aussi une des grandes qualités de son cinéma et qui n'a pas nécessairement d'équivalent ailleurs, puisqu'elle n'a pas de limite, elle n'a pas de cadre, elle n'a pas de... j'ai l'impression d'une liberté beaucoup plus forte que d'autres créateurs qui sont finalement un petit peu encadrés par les maîtres, les références, la tradition. Elle va au gré de ses envies et tout en ayant un œil de photographe qu'on retrouve, je trouve, dans ce film énormément. Et l'usage des couleurs n'est qu'un des aspects de cela.
Pourquoi tu travailles pas, toi?
Avec ces deux-là? Puis quoi faire? J'ai rien appris. Il n'y a même pas de place à la crèche du quartier.
Ils sont mignons, tu sais.
Oui. Mathieu, oui. Marie est un peu plus fermée. Mais c'est ma faute, sûrement. Tu sais, j'ai perdu. Enfin, j'ai souvent envie de pleurer.
Écoute, c'est pas possible, cette histoire. Il faut faire quelque chose, parler à Jérôme.
Parler à Jérôme? Difficile. Il est fatigué. Puis il a une façon de sourire. Je dis plus rien. Rien que l'idée de lui annoncer que je suis une nouvelle enceinte. J'en suis malade.
T'es enceinte?
Oui.
Et tes parents, ils peuvent pas t'aider, ils sont eux.
Bon, mère Soissons. Ils veulent plus me voir.
Et ta tante?
Elle non plus.
Quel mélo. T'es enceinte de combien?
2 mois, plus ou moins.
Un coup de pleure pas, Suzanne, il faut te faire avorter, c'est tout.
Non, avorter ou comment? Tu crois que c'est facile?
Ben, on va trouver un moyen.
Puis l'idée d'en parler à Jérôme.
Enfin, il les a fait, ces gosses. Tu veux que je lui parle?
Toi? Non. Mais quel âge tu as?
17 ans, un peu plus.
Moi, j'ai l'impression d'avoir 100 ans.
Et en vrai, t'as quel âge?
22.
Quelle mélodie, Pauline, future pomme, Valérie Mérès à Suzanne, Thérèse Lyotard, c'est l'une chante, l'autre pas. Alors, 12 ans ont passé depuis le bonheur et c'est pas vraiment le bonheur dans cette famille. On l'a entendu, c'est un peu plus compliqué. Il me semble que c'est un film un peu à part dans la filmographie de d'Agnès Varda, Brigitte Rollet, pour plusieurs raisons, pardon. D'abord parce que ici, elle propose des héroïnes qui sont de bonnes héroïnes. C'est comme ça que vous les écrivez, que vous les décrivez, il me semble, dans un texte que vous avez consacré à ce film, là où quand elle fera Santoine Ilois, elle proposera avec Mona une héroïne beaucoup plus revêche, beaucoup plus difficile à aimer du premier abord, et puis parce que c'est le film le plus explicitement féministe dans son propos, dans son discours d'Agnès Varda, même si toute sa filmographie l'est, évidemment par la manière dont elle déconstruit le récit, par la manière dont elle va proposer un certain type de personnage féminin précisément, mais celui-là c'est très clair.
Oui, très clair, mais personnellement, moi, je suis pas très convaincue par le féminisme de ce film, parce que ce n'est pas parce qu'un film représente une lutte féministe qu'il l'est. On pourrait trouver d'autres exemples. Je préfère le féminisme souterrain, implicite des autres films, bien avant d'ailleurs les années 70. Mais là, ce qui est intéressant, je ne sais plus quand c'était bonne héroïne, mais c'est surtout cette idée de solidarité féminine, ça qui est vraiment très importante. Même si et elle est très très rusée dans sa façon d'intégrer un possible contre-discours à son discours dans son film, en particulier la scène où Pomme chante cette chanson sur les femmes bulles. Donc il y a quand même une apologie de la maternité qui n'était pas nécessairement partagée par toutes les féministes qui s'étaient quand même battues pour le droit à la contraception, et donc la question de la maternité est un peu différente. Mais c'est vrai que dans le public du planning familial où Pomme chante sa chanson des femmes bulles, quelqu'un lui dit « t'aurais pu chanter ça à un meeting de Laissez-les vivre ». Et c'est très subtil en fait, parce qu'en effet c'est la question qu'on se dit aussi, cette façon de valoriser l'enfant, enfin il n'y a rien sur le fœtus, mais quand même c'est un discours qui pourrait très bien être utilisé par des personnes qui sont contre l'avortement. Et donc en fait, elle essaye dans ce film de rendre compte d'un combat, hein, on a cette célèbre reconstitution du procès de Bobigny avec Gisèle Halimi dans son propre rôle, mais en même temps, il me semble qu'entre le début, la première partie où on a quand même un engagement, on voit Pomme, il y a la chanson des nains avortés, enfin il y a toute une reconstitution qui n'est pas simplement, surtout que le temps passé est assez court depuis la loi Veil. Dans la seconde partie, il me semble que là on tombe dans une espèce de maternitude, c'est-à-dire qu'on est dans la légende rose de la maternité, et là je trouve que c'est beaucoup moins convaincant. La partie Darius Pomme en Iran, je ne suis pas convaincue que ça marche tout à fait. Et en le revoyant là lors de de cette petite rétrospective là à Montargis, pour organisée par les Cramés de la Bobine, que je salue d'ailleurs à cette occasion, je me suis rendu compte qu'en fait, de tous les films qui ont été montrés, c'est celui, je trouve, qui a le plus mal vieilli. Alors, je ne sais pas si c'est un point de vue partagé, mais il fait très daté. Alors, il y a aussi
d'autant,
le fait
qu'il fait peut-être référence à des genres dominants de l'époque qui sont un peu oubliés aujourd'hui, comme le roman photo,
oui.
Par exemple. Je ne sais pas si ça vous a frappé, Marco Souzal, mais ça joue évidemment avec la comédie musicale, puisqu'il y a tous ces moments chantés. Mais il y a un côté, on parlait de l'image un peu publicitaire du bonheur. Mmh. Là, c'est clairement le roman photo, presque, qui est la source.
Oui, mais je relisais même qu'à l'époque, Varda avait pris ses distances avec le féminisme. Où elle disait, c'est les problèmes de femmes qui m'intéressent et pas le féminisme. Mmh. Et que même, il y avait une critique à l'époque avait dit, c'est un peu le féminisme vu par Walt Disney. Voilà, donc il y avait eu cette critique-là. Mais à propos du féminisme ou du regard féminin de Varda, moi, ce qui m'a frappé en revoyant un certain nombre de films, c'est par exemple sa façon de filmer le corps masculin, la nudité masculine qui revient souvent dans ses films, y compris dans les courts-métrages, dans les documentaires, qui est une chose assez assez unique et qui me semble être le propre, à mon avis, d'un regard féminin, peut-être. Ça passe aussi par ça, disons, la féminité de Varda.
Oui, et ça passe aussi par une façon de ne jamais se victimiser. Dès les interviews, par exemple, à l'époque de Cléo de 5 à 7, elle va dire, quand on lui demande est-ce que c'est compliqué d'être une femme réalisatrice, elle va dire non, le problème, c'est pas d'être une femme ou un homme, tout le monde a les mêmes problèmes, la difficulté, c'est de faire du cinéma libre. Elle voudra jamais se réduire à cette identité.
Oui, c'est quelqu'un, je me souviens que j'ai fait l'entrée Varda pour le dictionnaire des féministes. Et ce qui était un peu problématique, c'est qui définit qui est féministe. Bon, on s'était dit quand même, bon, donc Varda était incluse, mais je n'ai pas trouvé de référence dans lesquelles elle s'autodéfinisse de cette manière-là. Donc en fait, elle a... moi, ce discours, les hommes ont le même problème, enfin, je vois l'interview auquel vous faites référence, là, on peut pas dire qu'elle soit dans une grande solidarité vis-à-vis de ses consoeurs qui sont également en activité. Elles sont pas très très nombreuses.
Bon, à l'époque, elle se compte sur les doigts d'une main d'un amputé.
Oui,
quoi.
Mais en même temps, elle veut être one of the boys, hein, un de la bande des cahiers, un de la bande de la nouvelle vague, et du coup, elle peut faire oublier qu'elle est une femme, c'est tout aussi bien. Et la conséquence, c'est une forme de, je dirais pas d'élite solidarité, mais on peut pas dire qu'elle soit tout à fait partante pour cette idée d'une lutte collective. Mais en même temps, étant absente de France au moment de mai 68, il est difficile de savoir ce qu'elle aurait fait au moment de la création du MLF, par exemple.
Topo, Flaco, Indio, Lobo, Tita. Les homeboys et les homegirls, ce sont les membres des gangs. Il y a 300 gangs à Los Angeles, dont 15 à East LA. Chaque gang a un nom, un sigle et un signe. Lié au quartier, le barrio avec un V. Ici, VNE, nouveau quartier de l'Est. Happy Valley, la vallée heureuse. Hazard Grande. Ou Big Azar.
A lot of people take the idea that joining a gang is to actually just go out and hassle people. That's not where it's at. You grow up playing with the kids, going to school with the kids. Before you know it, you're a teenager. And then after a while, maybe you do get into some kind of a hassle. But that's how you get into the gang trip, you know. You're not initiated or anything like that. You just happen to be born at a certain barrio Okay, my opinion of this is because there's a lot of gang killing, you know. And from what I understand right here in this area right here, there was a couple of guys shot with this mule over here. I didn't just paint it just to make it look nice. You know, I'm trying to show that we are descendants of the Aztecs or the Mayans or the Toltecas, and that's what that is. That he was part of the movement, the Chicano movement, see? And this is supposed to be his mother, and she's crying because they shot him, right? And that's his brother. And he's looking out the window thinking that he might be next. You see? There was 500 people killed last year. 500 teenagers.
I don't know, things they got killed or, you know, they had family problems. And they shot themselves or whatever.
Où était Agnès Varda en mai 68? Eh bien, elle était à Los Angeles et elle y est restée un certain temps puisque c'est là qu'elle a tourné Murmure, ce documentaire sur les murals, comme dit Agnès Varda dans le commentaire de ce film. C'est donc, dans plan large aujourd'hui, le premier documentaire, officiellement documentaire d'Agnès Varda qu'on entend. Évidemment, c'est toujours plus compliqué chez Agnès Varda, Marco Souzal, d'abord parce qu'il y a cette voix, il y a cette voix off, cette voix jeu, comme elle va l'appeler elle aussi, qui l'amène à faire principalement des documentaires subjectifs. Ça, c'est quelque chose qui est totalement revendiqué de sa part. Elle en parle dans Varda par Agnès, hein, son livre des cahiers du cinéma.
Oui, et elle va faire un film qui est très beau d'ailleurs, qui s'appelle Documenteur d'ailleurs.
On va en parler dans un instant. Bon,
et peut-être qu'on peut peut-être qualifier ça d'essai presque, plus que documentaire. Brigitte parlait tout à l'heure de la filiation avec la Nouvelle Vague, mais je pense qu'aussi... Il y a un cinéaste auquel on peut la lier très fortement, qui est Chris Marker, par exemple. Elle est plus de la génération presque de Marker. Enfin, elle commence au même moment que Marker. Elle a comme point commun avec Marker de pas venir directement de la cinéphilie, mais de passer par la photographie. Et aussi de travailler sur, ce qu'on pourrait appeler des essais, c'est-à-dire effectivement des documentaires très subjectifs qui vont, subjectivité, vous l'avez dit, qui va, être présente à travers sa voix off, à travers ses textes très particuliers, avec plein de jeux de mots, plein de... et puis, un peu plus tard, en apparaissant elle-même à l'écran, façon plus évidente, à partir des glaneurs et de la glaneuse, notamment.
On pourrait faire des diagrammes sur l'apparition progressive du corps d'Agnès Varda à l'écran, ça on va en reparler un peu tout à l'heure, mais on parlait de ses références de photographes, les références de peinture, et c'est pas pour rien qu'elle fait un film sur ses peintures murales. C'est quelqu'un qui est passionné par la peinture, Agnès Varda, et qui le montre dans ses films, alors que ce soit par la reconstitution de peinture, on se souvient de Jane B par Agnès V, ou Jane Birkin reprend des poses de peinture classique, mais il y a aussi cette idée ici de faire se confronter l'image photographique et la peinture murale. Alors c'est un documentaire qui est très mis en scène, puisqu'on sent qu'il y a presque des marques devant la caméra pour que les personnages s'avancent du fond du plan jusqu'à la caméra, et pour avoir la même taille à l'écran que ces peintures murales, Brigitte Rollet.
Moi, oui, ce que je trouve intéressant dans ce documentaire, il y a plusieurs choses. Déjà, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les images, parce que les peintures murales ou le street art, même si on l'appelait pas comme ça, c'est aussi un lieu de revendication. Donc c'est à la fois une culture populaire, mais aussi où s'exprime le politique.
Les murs parlent, ça s'appelle pas murmure pour rien.
Voilà, les murs parlent, et donc ils parlent de certains types de luttes, et ce qu'on trouve là, je trouve d'une manière très très forte, c'est sa capacité à faire parler les gens d'eux-mêmes ou de leur art. Et ça, je trouve que, enfin, en revoyant la Visage Village, je trouve que, alors, on ne sait pas, parce que on a juste le moment où les gens disent des choses qu'on trouve intéressantes. Et peut-être qu'il y a eu des heures passées auparavant. Mais on sent quand même que c'est quelqu'un, c'est pas simplement elle. Elle, c'est la voix qui introduit. Mais en fait, elle est très généreuse dans sa façon de donner la parole à des gens qui ont des choses à dire et qui arrivent à l'exprimer d'une façon extrêmement, puissante, même si ce ne sont pas nécessairement des personnes qui pensent ou qui auraient pensé auparavant ou qui auraient conceptualisé. Et cette capacité, cette empathie avec les personnes qu'elle interviewe, ça, je trouve que c'est une constante, vraiment de celui-là jusqu'à ses derniers documentaires, à l'exception des plages d'Agnès, où là, je trouve, on est vraiment dans le film testament plus auto-centré. Mais sinon, il y a vraiment cette ouverture aux autres qui passe. Et bien sûr, elle le dit elle-même au tout début, elle se demande si le cinéma va lui permettre d'exprimer les choses comme le fait la peinture, comme le fait la littérature. C'est quelqu'un qui est beaucoup en référence aux autres arts. Et là, justement, par le biais de ses peintures murales, elle arrive à conjuguer à la fois le cinéma, la peinture murale et une certaine vision du monde qui est la sienne. Donc c'est une démarche, là encore, très, très nouvelle. Et puis, le fait qu'elle soit aux États-Unis, je ne connais pas beaucoup de cinéastes qui se soient exilés volontairement. Bon, à part les cinéastes qui sont partis pendant l'occupation, mais sinon, et qui est fait, elle fait feu de tout bois, Varda. Et là, elle est là-bas et elle se débrouille pour innover encore dans ce domaine du documentaire.
Et pour innover d'autant plus que de ce film va surgir un autre film, comme si des fissures des murs qu'elle avait filmées sortaient ceci.
« Allô?
Émilie?
Oui?
C'est Ginou.
Oui? Comment tu m'as trouvée?
Figure-toi que j'ai su que tu travaillais chez Delphine et j'ai demandé son numéro au consulat.
Ah, je suis contente de t'entendre. Tu es à Los Angeles?
Oui, oui, pour 8 jours et j'aimerais bien te voir. Il y a si longtemps. Tu vas bien?
Oui, je vais bien.
Martin va bien?
Oui, oui, il va bien.
Et Tom?
On est séparés.
Mais non, c'est pas possible. Pas vous.
Mais...
pas vous, vous vous entendiez si bien. Je n'arrive pas à le croire. Hier encore, j'ai parlé de vous deux à mes amis qui m'hébergent. Je voulais qu'ils vous connaissent. Émilie, je suis désolée. Oh, je suis désolée, Émilie, je ne savais pas. Qu'est-ce qui est arrivé?
Mais je ne sais pas.
Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé?
Mais depuis qu'on était en... depuis qu'on est venu en Amérique, ça a plus tellement marché.
Et Martin, qu'est-ce qu'il dit, Martin?
Il ne dit pas grand-chose.
Et toi, tu tiens le coup?
Non.
Je suis vraiment désolée. Je vais venir te voir. Tu veux bien?
Oui, j'aimerais bien.
Émilie, je suis désolée. J'ai pas voulu te faire de peine. Écoute, dis-moi que tu vas bien quand même.
Non.
Extraordinaire, Sabine Mamou dans Documenteur. Sabine Mamou était la monteuse d'Agnès Varda. Le Martin dont on parle dans le film, qui est donc l'enfant, le garçon d'Émilie, c'est Mathieu Demy. On est dans une fiction, officiellement, même si ça résonne beaucoup avec la réalité, et surtout avec ce procédé que je trouve extraordinaire, qui consiste à inclure des images documentaires, non pas pour contextualiser l'environnement, et c'est un peu l'envers du soleil californien de ce qu'elle avait... ce qu'elle avait filmé dans Murmure, mais pour donner des états mentaux. C'est-à-dire comme si les images de ces pêcheurs, les images de ces Mexicains qui travaillent comme ça un peu partout à Los Angeles, décrivaient un état mental. Et c'est ce qu'elle avait déjà fait dans un documentaire qui s'appelait Opéra Mouf, où on voyait le petit peuple de la rue Mouffetard reflétant les états mentaux d'une... Ben on parlait tout à l'heure des femmes bulles, d'une femme enceinte.
Mais on voyait déjà ça, je trouve, dans La Pointe Courte. Parce que là, il y a ce couple, d'ailleurs, on se rend compte que c'est quand même une constante, les couples qui se posent des questions ou les couples qui se séparent chez Varda, enfin, même si dans Le Bonheur, ils s'en posent pas. Et c'est peut-être ça le problème, en fait. Mais ce couple dans La Pointe Courte, on a ces scènes quasi documentaires de pêcheurs, là encore. Et c'est cette façon de, justement, ne pas choisir entre fiction et documentaire. C'est ça qui est intéressant aussi, cette liberté, s'affranchir là encore des règles qui veulent qu'il y a les personnages et puis il y a les gens qui sont pas des personnages. Bah, si elle fait les pêcheurs deviennent des personnages et puis à la limite ce couple dans La Pointe Courte comme dans d'autres films est inséré dans une réalité, justement par rapport à tous les questionnements sur le réalisme au cinéma, le documentaire, la fiction. Elle arrive à faire là encore sa petite cuisine tout à fait singulière. Et c'est dans Documentaire, mais dans Cléo de 5 à 7 aussi, moi c'est un extrait que j'utilise beaucoup avec mes étudiants, quand Cléo sort du café et qu'on voit que les gens qui la regardent, et puis c'est entrecoupé de plans fixes, mais on parlait tout à l'heure de Marker et ce groupe Rive Gauche, enfin René aussi s'intéresse à ces plans. C'est une autre façon justement par rapport à une image toujours animée, toujours mobile, et ben d'arrêter le temps d'une certaine façon et de donner à voir quelque chose qui a trait à la l'état mental de la personne.
Mais c'est... aussi parce qu'il y a presque quelque chose de cubiste chez Agnès Varda. C'est-à-dire que rien n'est jamais univoque dans ce qu'elle va montrer. Elle va le dire sur l'articulation entre Murmure et Documentaire. Elle va dire « Il me semblait injuste de montrer tant de soleil et de couleurs sans aussitôt montrer les ombres mauves et les visages d'une foule anonyme. » Et puis encore, il m'est naturel, dit-elle encore, d'aller de ci, de là, de dire quelque chose plus le contraire et de me sentir moins piégé parce que je ne choisis pas une seule version des choses. Alors on pourrait dire qu'elle dit tout et son contraire, mais aussi qu'elle fait quelque chose extrêmement dialectique finalement et qui se joue aussi par le montage, Marco Suzanne.
Oui, c'est des films qui sont comme des mosaïques ou des compositions musicales, souvent, que ce soit les documentaires ou les fictions. Et je vois là aussi quelque chose qui vient un peu de la photographie encore. C'est-à-dire que c'est l'importance des plans aussi et tout d'un coup comment on passe du particulier au général, ce qui est vraiment le cas de documentaire, où l'histoire de cette mère et de cet enfant, ça, on pourrait dire en gros c'est la fiction, et puis qui est baignée dans ce monde du documentaire qui renvoie à son travail photographique.
Et donc, ce qu'elle faisait déjà d'ailleurs avec le Festival d'Avignon et le TNP, c'est-à-dire qu'elle faisait à la fois des photos officielles, on se souvient de ces photos de Gérard Philippe qui ont fait un peu le tour du monde, et puis elle documentait ce qui se passait sur le plateau.
Oui, et ses compositions, disons, ses compositions par le montage, c'est toujours ces allers-retours entre le général et le particulier, entre l'intime et la réalité. Et qui peut être entre la vie et la mort, entre la joie et la tristesse. C'est toujours des variations de ton comme ça aussi.
Qui se joue aussi par le miroir. Ça, on sait que c'est une figure presque obsessionnelle chez Varda. Depuis Cléo de 5 à 7, que de plans de miroir. Et on a ça aussi dans documentaire. On a documentaire, moi aussi je me trompe, Sabine Mamou allongée nue, se regardant dans un miroir avec ce pli du miroir qui lui brise le visage quasiment.
Mais le miroir, c'est un accessoire éminemment cinématographique, mais en même temps, il est vrai que l'usage qu'en fait Varda, moi je m'étais intéressée à l'usage qu'en faisait Jacqueline Audry, par exemple, dans ses films, il y a toujours un plan d'une femme qui se regarde dans un miroir. Et justement, par rapport à la question de la représentation de la création, en particulier du corps féminin, je trouve que Varda va beaucoup plus loin, puisqu'elle montre des femmes qui se regardent nues, comme elle se regardait enceinte dans Opéra Mouffe. Et là, on n'est pas dans un regard sexualisée du corps, tout comme quand elle filme Mona dans Saint-Ouen-Illois. Mais elle essaye de dépasser cette vision assez stéréotypée, cliché, de la femme au miroir ou de la femme à la toilette, en insérant justement l'accessoire du miroir. Mais le côté, le miroir fendillé ou le cadre coupé par quelque chose, c'est aussi, ça c'est moins original, c'est davantage cette manière d'insérer, de montrer, de donner à voir une femme qui se regarde pour elle-même, pas pour plaire, pas, moi je compare souvent avec Madame II d'Ophuls, où on voit Darieux qui est toujours en train de se regarder dans des miroirs, un peu comme Cléo au début, et où là on sent que c'est pour plaire, alors que chez Varda, il me semble qu'on est dans une autre conception du miroir.
La bille. Écoutez-moi.
Dis donc, ça chauffe là-haut.
La bille féminin est placée avant le verbe. On écrit donc prise.
N'ayez pas peur.
Que je ne tue non. Chaque fois que j'hésite sur un accord de participe passé, je revois cette classe à l'école de Mauve et ce parachute qui vient volter au-dessus de la Loire.
Plein visiteur, bien tard. Entrez.
Plein visiteur du soir.
Bonsoir. Là, le voisin.
Bonsoir,
Henri. Oui, ben, il y a les Boches, là, qui ont fait une 200 tout le café, là, pour ramasser des jeunes pour les STO, là. Il a emmené Gaston, puis Paul. Puis les autres jeunes, il avait réussi à se sauver avant. Là.
Les Allemands, ça les prendre un coup.
Ah, et bien, Gilles aussi.
Dominique et Gilles.
Non, Dominique, non, ils l'ont pas emmené. Dominique, non, ils l'ont pas pris.
Non, mais c'est dans un film, Les Visiteurs du Soir.
Il a que ça dans l'idée, les films qu'il a vus à Nantes.
Ah, bah, faudrait que tu aies vu les vieilles filles galants, là, les anciennes institutrices. Elle avait un projecteur avec des petits films, des charlots, là, des petits films très courts.
Une idée, ça. Il s'ennuie, le gamin.
Après La femme au miroir, L'homme au miroir, l'étonnant Jacques de Nantes, le film qu'Agnès Varda a consacré à l'enfance de Jacques Demy, tourné juste avant sa mort, sorti après sa mort, et elle filme à la fois l'enfance réinventée par ses soins de Jacques Demy, d'après ses souvenirs. Elle filme Jacques Demy et la mort au travail sur son corps, sur ses yeux, ses sourcils, ses mains. Et puis, elle filme aussi les films de Jacques Demy. C'est un film de montage, je trouve, tout à fait éblouissant et très étourdissant. Enfin, on comprend toujours pas tout. Pourquoi il y a du noir et blanc par endroit? Pourquoi il y a de la couleur à d'autres? Il y a un côté très... presque impressionniste, intuitif chez Varda. Je suis pas sûr que ce soit complètement rationalisé elle-même dans sa démarche.
Oui, en tout cas, oui. Là encore, on peut se dire c'est une innovation par rapport à l'idée reçue selon laquelle le noir et blanc c'est le passé et la couleur c'est le présent. Et là, en fait, elle joue avec ça de façon constante. Mais sans que ce soit nécessairement, moi je trouve le film intéressant d'un point de vue cinématographique et par rapport à sa filmographie, mais je suis pas convaincue que le résultat soit nécessairement très comment dire, cette manière de mettre en scène, on a un souvenir de demi et hop, elle va nous donner la version filmée avec comédien, et je suis pas sûre que ça marche si bien que ça.
C'est un peu surprenant, c'est qu'elle se sert des films de demi pour reconstituer son passé. C'est-à-dire oui. qu'on pourrait se dire tel épisode de son enfance lui inspirera telle scène de ses films, mais c'est presque à rebours que ça se passe. C'était comme si les films de demi éclairaient et mettaient en scène son enfance. Enfin, je sais pas si c'est le sentiment que vous avez, Marco Suzanne.
Oui, il y a encore un effet de miroir là. C'est comme si le demi âgé est proche de la mort. Il faut le dire aussi. C'est quand elle le filme, elle fait ce film alors qu'il est mourant quasiment. Donc c'est une sorte de dernier cadeau qu'elle lui fait. C'est ça qui est assez émouvant aussi. Et c'est pour ça que je trouve presque ce qui est le plus émouvant dans le film, c'est les plans de lui sur la plage où elle filme sa peau de très près juste avant qu'il disparaisse. Et c'est un peu comme si elle les deux demi, l'enfant et l'adulte proche de la mort se regardaient. C'est ça que je trouve touchant dans le montage, en fait. Moi, je trouve que les jeux de montage dans le film sont vraiment ce qui crée l'émotion plus que les scènes elles-mêmes, curieusement.
Oui. Oui, parce que sinon, en plus, je trouve qu'on est un peu dans l'homme, la vie, son œuvre, qui était la façon dont on nous enseignait la littérature à la Sorbonne. Et je suis pas sûre que ce soit pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas le cinéma de demi, je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur moyen d'y rentrer. Ça rend pas aussi hommage que ça, finalement. Même si je comprends la démarche très personnelle, très intime, très touchante, en effet. Mais c'est une porte d'entrée qui marche
sur la complicité amoureuse et cinéphile des gens qui connaissent le cinéma de demi. Il faudrait presque être un intime de la famille Varda demi pour peut-être entrer complètement dedans.
Pour ce glanage-là, d'images, d'impressions, d'émotions, il n'y a pas de législation. Et dans le dictionnaire, glaner au figuré se dit des choses de l'esprit. Glaner des faits et gestes, glaner des informations. Pour moi qui n'ai pas beaucoup de mémoire, quand on revient de voyage, c'est ce qu'on a glané qui résume tout le voyage. Quand je suis revenue du Japon, j'avais glané des souvenirs dans ma valise. Je rentre à la maison. Les chats sont là. Il y a du courrier, une plante asséchée, les autres pas. Et puis je regarde les fuites du plafond, les infiltrations, les moisissures. Je m'y suis habituée. Finalement, j'aime bien ça. On dirait un paysage ou une toile de peintre abstrait. Un tapis, un gokyang, un bord de riz. Il y a des gouttes qui tombent. J'ouvre ma valise. C'est ça qui est formidable. Dans un grand magasin de Tokyo, au dernier étage, voilà, il y avait des Rembrandts. Des vrais Rembrandts. Saskia, en détail. Et puis ma main, en détail. C'est-à-dire, c'est ça mon projet. Filmer d'une main mon autre main. Rentrer dans l'horreur. Je trouve ça extraordinaire. J'ai l'impression que je suis une bête. C'est pire, je suis une bête que je ne connais pas. Et voilà l'autoportrait de Rembrandt. Mais c'est la même chose en fait. C'est toujours un autoportrait.
C'est la même chose, c'est toujours un autoportrait, filmé d'une main, mon autre main. Là, le projet de d'Agnès Varda s'explicite et ira jusqu'aux plages d'Agnès. Et puis Visage Village va aussi dans cette direction-là. C'est évidemment Les Glaneurs et la Glaneuse, un film qui sort en 2000 et qui remporte un immense succès, assez surprenant. En tout cas, parce qu'il dit quelque chose de l'époque, parce qu'il filme la pauvreté, parce qu'il filme ce geste de ramasser et de se nourrir avec ce qui reste par terre dans les champs ou dans les marchés, et qui en même temps fait découvrir sans doute à toute une génération Agnès Varda, et c'est la troisième Agnès Varda un peu. On l'a entendu, sa voix a changé, et c'est comme ça qu'on la connaît maintenant, cette vieille dame avec les cheveux bicolores, et avec cette voix qui est, et ce discours qui est à la fois un peu fantaisiste et très grave en même temps, puisque son projet, c'est comme elle l'avait fait avec Jacques Demy, de se filmer vieillissante.
Moi, j'aime beaucoup ce film et en même temps, en bonne littéraire, quand elle parle de sa main, je pensais toujours à Roquentin au début de La Nausée de Sartre, qui, en voyant sa main, justement, sa main qui va se poser des questions sur l'existence. Alors, je ne sais pas si comme Varda est assez littéraire quand même, je ne sais pas si la comparaison est voulue ou pas. En tout cas, quand on voit sa façon de filmer sa main par rapport à la manière dont elle filmait la peau de Demy, on se rend compte qu'il y a vraiment un lien très très fort entre se filmer pour ne pas disparaître, et que c'est quelque chose qui va devenir en effet son cinéma, avec des films de plus en plus testamentaires, avec Les Plages d'Arda comme le plus marqué dans ce registre. Mais c'est vrai que c'est une Varda que beaucoup de gens découvrent à ce moment-là. Les chiffres, je n'ai plus en tête exactement le nombre d'entrées, mais par rapport à ses autres documentaires, il y a eu vraiment une sorte de... Le film est arrivé à un bon moment, disons, où ces questions-là touchaient un plus grand nombre de spectateurs.
Alors, les contempteurs d'Agnès Varda, parce qu'il y en a, vont lui reprocher justement cette trop grande présence. Pour Visage Village, certains vont parler d'un ego trip un peu gênant. Et notamment pour ce film Les Glaneurs et la Glaneuse, où elle ne cesse d'aller à la rencontre de l'autre, y compris du corps de l'autre, dans ce qu'il peut avoir de plus dérangeant parfois, parce que ce sont des corps fatigués, des corps abîmés par la vie, pour finir par faire un autoportrait. On est encore dans une dualité assez étonnante, Marco Souza, où finalement, je cite Claude Murcia dans ce livre des presses universitaires de Rennes, que je citerai à la fin, Agnès Varda, le cinéma et au-delà, il dit que le projet d'Agnès Varda, c'est penser l'autre pour penser soi. C'est ce que fait Agnès Varda à la recherche de sa propre altérité.
Oui, alors bon, il y a là aussi une forme d'honnêteté, c'est-à-dire qu'on retrouve dans les précédents documentaires dont on a parlé, cette subjectivité, cette idée qu'aussi il faut passer par soi pour aller vers l'autre, que ne pas tellement croire en une objectivité absolue. Voilà, après, peut-être à partir des Glaneurs et de la Glaneuse, peut-être qu'il va prendre plus de place à l'écran, et elle va devenir un personnage de plus en plus présent, et peut-être de plus en plus omniprésent, et peut-être un peu trop, à mon avis, au bout d'un moment. Mais ça se joue pas de la même façon, à mon avis, dans Les Glaneurs et la Glaneuse que dans les films d'après, que dans Visage Village, par exemple, où je trouve que les rencontres avec les autres sont plus problématiques, à mon avis.
Brigitte Rollet.
Oui, non, en fait, on a l'impression, c'est vrai, dans son cinéma, quand... on l'interroge au début de sa carrière, il y a toujours cette idée, ça c'était une constante chez les femmes créatrices, quel que soit l'art considéré, il y a toujours l'idée que les femmes n'ont pas la capacité de créer, qu'elles n'ont pas accès à la métaphysique, ni à la création, à la procréation, oui, mais pas la création, et du coup qu'elles ne peuvent créer que à partir de ce qu'elles connaissent. Donc c'est l'autobiographie sous toutes ses formes, dans la littérature, dans le cinéma, ou ailleurs, cette idée d'incapacité à aller au-delà de son propre vie et sa propre existence. Et alors, je sais pas si Varda, parce qu'au début, quand on lui avait posé la question par rapport à Cléo, elle avait dit non, j'ai pas de cancer, pour vraiment mettre une distance entre sa création et elle-même. Mais donc, je sais pas du tout si c'est le fait une espèce de pied de nez. Peut-être que je lui prête des intentions qu'elle n'a pas. Une espèce de pied de nez par rapport à cette tradition qui veut que les femmes ne peuvent raconter que des choses qui les concernent directement. Et que là, elle arriverait à un âge pas canonique, mais quand même tout à fait honorable, de se dire que c'est elle qu'elle va montrer. D'autant que elle est quand même une des rares à montrer des femmes de son âge Même s'il y a quelqu'un qui est là, en l'occurrence, on ne peut pas dire que ça pullule sur les écrans, que ce soit des documentaires ou des fictions. Donc, mais peut-être que je prête des explications qui ne sont pas les siennes et qu'elle est en effet simplement dans un égo trip discutable. Mais il y a cette possibilité, en tout cas.
Je pense que ça joue différemment, en fait, dans les glaneurs et la glaneuse, c'est elle en tant que corps, donc, et regard. Dans Les plages d'Agnès, c'est sa biographie, son autobiographie, elle se raconte. Et dans Visage-Village, ou Village-Visage, je ne sais jamais dans quel ordre c'est.
Visage-Village.
C'est plus elle en tant que, pour dire ça un peu brusquement, en tant que star, quoi, un peu. Hein, c'est-à-dire qu'elle est devenue aussi une figure, on reconnaît sa silhouette, elle est invitée partout dans le monde, célébrée. Et donc elle est aussi une image, presque une. Donc je trouve que, voilà, dans ces différents films, ça se joue différemment. Cette histoire de main dit bien que c'est aussi quelque chose de plus douloureux, de plus profond dans les glaneurs et la glaneuse. Même si dans Visage-Village, il y a des moments aussi où elle évoque la mort, etc. Mais c'est d'une manière plus superficielle. Sa présence est plus superficielle et encombrante, à mon avis.
Au port du Havre sont arrivés. Au port du Havre sont arrivés. Trois beaux navires chargés de blé. Des pommes, des poires et des raves, des choux, des figues, des fraises et du raisin doux. Trois dames s'en vont, les marchandais, gentils marins vont bien tomber. Montez, mesdames, vous le verrez, des pommes, des poires et des raves, des choux, des figues, des fraises et du raisin doux.
C'est Agnès Varda, bien sûr, qui chante « Ce port du Havre », une chanson de son enfance dans Visage-Village, son film co-signé avec le street artiste JR et qui figure avec Les plages d'Agnès, Les glaneurs et la glaneuse. Deux ans après, Murmure, documentaire, Agnès de Sidola Varda et quelques courts-métrages encore dans le coffret DVD édité par Artem. Le bonheur, l'une chante, l'autre pas et Jaco de Nantes, dans leur version restaurée, sont disponibles, eux, en DVD individuel, toujours chez Arte. Merci Brigitte Rollet, votre étude « Autre regard, autre histoire » Agnès Varda et les théories féministes figurent dans le livre collectif édité par les presses universitaires de Rennes. Agnès Varda, le cinéma et au-delà, qui nous a été évidemment très précieux dans la préparation de cette émission. D'autant que les études approfondies du cinéma de Varda sont rares, il serait temps qu'on s'en empare. Pour rester dans la galaxie Varda et donc demi, vous avez encore 11 jours jusqu'au 17 juillet pour assister au cinématographe de Nantes à l'hommage rendu à Michel Legrand. Vous pourrez ainsi revoir sur grand écran Cléo de 5 à 7. Ce sera à 19h aujourd'hui ou demain soir à 20h30, La vie de château de Jean-Paul Rapneau, à qui nous avions consacré un merveilleux plan large. C'était en octobre dernier et c'est évidemment toujours disponible en podcast. Et côté franc-tireur, si l'envie vous prend subitement de revoir des films de Jim Jarmusch, c'est possible en salle depuis mercredi. 6 d'entre eux, et pas des moindres, Permanent Vacation, Stranger Than Paradise, Down by Law, Mystery Train, Night on Earth et Dead Man sont ressortis en version restaurée. Les deux plans larges que nous avions consacré au poète et dandy new-yorkais au dernier Festival de Cannes et en décembre 2016 sont eux aussi tout à fait podcastables. Ceci annoncé, retour aux années 70 et au petit bateau de cette flibustière de Nelly Kaplan.
Sur le rivage et je guette les tempêtes et les naufrages. Ça c'est chouette, papa, les petits bateaux qui vont sur l'eau. Until des hommes jeunes et beaux, des grands bêtas qui rêvent de moi. Ah, 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 ah.
En 1969, une Argentine fantasque et haute en couleurs, née rebelle comme d'autres naissent coiffées, comme elle le disait, ex-assistante d'Abel Gance, signait son premier long métrage, un brûlot féministe et un vrai règlement de compte contre l'espèce testiculaire, comme on l'appelait dans le film, l'histoire d'une sorcière des temps modernes qui brûle les inquisiteurs au lieu de se faire brûler. C'était La fiancée du pirate avec Bernadette Lafont et la chanson de Barbara, Moi je me balance. Résultat, une interdiction au moins de 18 ans pour apologie du vice. Voilà un beau passeport et donc un immense succès commercial. On peut toujours remercier les censeurs. La filmographie suivante de Nelly Kaplan, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est moins connue. On salue donc l'initiative de Lobster Film qui a entrepris d'éditer en DVD les films restaurés de la cinéaste, dont ce très loufoque et farcesque Papa les petits bateaux, dont on vient d'entendre un extrait. C'est du Tex Avery en chair et en os, Charlotte et Garçon.
Oui, vous avez entendu la voix de l'actrice principale du film, Sheila White. C'est un peu agaçante comme ça, très... Et c'est justement le côté, alors je cite Nelly Kaplan, le côté Shirley Temple de Monoprix qui l'avait séduite au casting pour ce film de 1971. Bon, l'histoire, c'est celle d'une riche héritière qui se fait enlever par un trio de gangsters qui sont complètement losers. Ils circulent dans une sorte de minuscule Fiat 500. Bon, il y a un côté Marx Brothers aussi. Et le cerveau de l'affaire, c'est donc Michel Bouquet. Et l'année même où il joue un rôle extrêmement riche, profond, de bon père de famille meurtrier et qui complètement taraudé par la culpabilité dans Juste avant la nuit de Claude Chabrol. Et il est dans le film en compagnie de deux autres pointures quand même de la scène, Michael Lonsdale et Judith Magre. Donc elle va prendre ses grands noms quand même de la scène et puis va complètement dynamiter tout esprit de sérieux. Et la fille à papa qui ressemble un peu à une poupée que joue Sheila White va avoir d'ailleurs un seul caprice au début du film, c'est se faire apporter un régime de bananes qu'elle mange tout au long du film avec parfois une sorte de gestuelle érotique burlesque, mais aussi sans doute le souvenir de Paulette Goddard dans Les temps modernes de Chaplin, hein, quand Charlot la rencontrait, elle mangeait des bananes. Donc en fait, que ce soit le film noir, le film policier, la satire sociale ou même le film pornographique soft, tous les genres dans le film sont vraiment, dans Papa les petits bateaux, sont parodiés et puis sont jetés, enfin congédiés, à mesure que cette jeune femme très fantasque va dégommer en fait tous les gangsters et tous leurs complices qui sont venus les rejoindre. Alors d'une part, c'est une façon pour Nelly Kaplan de briser cette espèce de figure idéale de la femme-enfant qui a été inventée ou en tout cas réinventée au XXe siècle par André Breton et les surréalistes. Et André Breton, que Nelly Kaplan a connu, elle a fréquenté puisqu'elle a été, même si elle était beaucoup plus jeune qu'eux, la maîtresse de plusieurs grands auteurs surréalistes. Hein, je dévoile rien.
Vous balancez, vous balancez.
Non, elle en parle dans ses mémoires.
Elle l'a écrit et largement raconté.
Voilà, paru il y a 2 ans. Et donc, voilà. Et pourtant, elle n'a jamais voulu être qualifiée de muse. C'était important parce que pour elle, elle était une collaboratrice à part égale avec ses amants. Et de même ici, le personnage est... c'est une riche héritière, mais en fait, elle se bat à égalité contre ses kidnappeurs. Et d'ailleurs, cet accent anglais qu'on entend très prononcé de Sheila White n'est sans doute pas sans rapport avec ce scénario de liquidation, d'élimination, parce qu'on pense très fort à l'humour très acerbe d'Alexander McKendrick dans Tueur de dames, où une vieille mamie anglaise avec sa tasse de thé en fait finit par désinguer tout un groupe de gangsters qui logeaient chez elle. Donc le film, voilà, c'est une sorte de cocotte minute, quoi. C'est un huis clos dans une maison où tous les coups sont permis et avec une gestuelle effectivement très stylisée, avec voilà des mines incroyables. En plus, Judith Magre a des grands yeux, un grand nez, une grande bouche, etc. Donc on est effectivement complètement dans Tex Avery et avec une musique qui fait du Mickey Mousing comme ça, qui rythme l'action comme dans les cartoons. Mais on en parlait pour Jacques Rivette, ce qui est assez savoureux, c'est justement ce côté très stylisé, très schématique, et puis quelque chose de plus subtil qui serait justement cette saisie documentaire d'une certaine France de l'époque. Et cette francité, entre guillemets, elle apparaît d'autant mieux dans le film suivant dont je voudrais vous parler brièvement, qui est ce film presque fait que en extérieur, Charles et Lucie, qui est sorti en 1979.
Que los cuervos devoren tus entrañas hasta el final de la eternidad.
Ça ne va pas, madame.
La saleté. Elle refuse d'avancer. Elle fait exprès. Elle sait que j'ai rendez-vous à 8 heures.
Ils attendront.
Ça ne peut pas attendre. Le rayon vert n'attend jamais.
Le rayon vert?
Le rayon magique. Je ne vous demande pas d'y croire.
Que l'inferno te trague et s'indigeste.
Vous permettez que je regarde?
Si vous voulez, ça sert à rien. Elle me fait toujours la même chose. Elle est fait exprès.
C'est comment le rayon magique? Ça n'a lieu qu'une fois par an, près du delta du fleuve. Juste avant 8 heures, c'est le vol des flamants roses. Puis, à 8 heures précises, tous les animaux se taisent et le rayon vert apparaît.
Ça doit être beau.
Très beau. Très, très beau.
Madame, vous voulez essayer?
Non sirve para nada, deja siempre la chimba. Moi, je suis ma hija de puto, je suis ma chimba. Je quiero bien, pero no sirve para nada. Bravo, Charles! Merci! Vous voulez le voir, le rayon vert?
Oh, c'est très aimable à vous, madame. Est-ce que tu crois que notre emploi du temps nous le permet?
Oh oui, Charles. Alors, en route!
Donc Charles et Lucie, Daniel Secaldi et Ginette Garcin, c'est ce couple qui était un couple de brocanteurs et puis qui sont devenus gardiens d'immeubles par nécessité, qui ont cru faire un héritage mirobolant alors qu'en fait ils ont été victimes d'une arnaque au faux notaire et qui donc donnent au notaire leur dernier franc et qui sont obligés et qui se mettent en route pour aller prendre possession d'une superbe propriété dans le sud de la France. Et évidemment, voilà, ils s'aperçoivent que non seulement ils ont rien, mais ils ont vraiment plus rien. Ils sont littéralement à poil. Et c'est là que commence une sorte de road movie et évidemment de ce désespoir naîtra plusieurs rencontres, mais dont une rencontre particulière, c'est celle qu'on vient d'entendre avec Nostradama, une magicienne, une sorte de voyante. Et vous l'avez peut-être reconnue parce qu'elle jure en espagnol, c'est la cinéaste elle-même, c'est Nelly Kaplan qui se met sur la route comme ça de ces personnages. Alors, on parlait de magie pour Rivette. Il y a aussi ce, alors dans un mode beaucoup plus mineur, hein, mais ce goût comme ça chez Nelly Kaplan, parce qu'elle a lu à 16 ans Les Champs Magnétiques et que voilà, elle est partie dans l'aventure surréaliste. Aussi ce goût de l'ésotérisme, du hasard objectif des surréalistes, comme étant une manifestation de la nécessité. Mais ce que je trouve très beau, c'est que d'une part, elle prend des personnages, alors pour le coup, très documentaires de cette France giscardienne, qui sont à bout, dans bout de course, quoi, quasiment en fin de vie, y compris dans leur couple. Et puis, elle se poste sur leur route et elle les relance, elle les rebooste, elle va donner un sens nouveau à leur aventure et faire d'ailleurs qu'ils vont quelque part vivre aussi un scénario de remariage quelque part. Et je trouve très beau que ce soit justement en leur parlant du rayon vert. Ce rayon vert, ce phénomène tout à fait physique, réel, dont Eric Rohmer parlera dans son film du même nom quelques années plus tard. C'est-à-dire que il y a une possibilité de relance dans le réel. La magie existe à travers ce phénomène physique dans le réel et donc elle va donner à son film une fin que je vous laisse découvrir, mais qui est très très chaplinienne et qui renvoie, là encore sur un mode mineur, mais à cette dérive à la Jacques Rivette et qui est, en tout cas je trouve, ce cinéma des années 70 qui se tire de cette grisaille et qui se met toujours sous le signe de la liberté.
Quand on a la cerise, il est une loi parmi les hommes. Cependant que l'un crie tue-le, on entend l'autre qui dit assomme. Mais ces deux paumés qui ne s'aimaient plus que du bout du cœur vont réapprendre à conjuguer le verbe aimer contre la peur. Charles et Lucie ont plein de soucis et plus d'oseille, ni plus de famille, ni plus d'amis. Ils sont pas marles, Lucie et Charles, ils se sont fait pigeonner comme des nouveau-nés.
Vous l'aurez reconnu, c'est bien Pierre Perret qui chante la chanson générique de Charles et Lucie. Nous sommes bien dans les années 70. Merci Charlotte Garçon. Le film de Nelly Kaplan, tout comme Papa, Les Petits Bateaux, mais aussi Plaisir d'amour et Il faut vivre dangereusement, le film de Claude Makowski qu'elle avait coécrit, sont disponibles en DVD et en version restaurée chez Lobster Film. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Jean Frédérics. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somanina et Milena Elig. La semaine prochaine, notre franc-tireur d'été sera Samuel Fuller. Nous serons avec sa fille, Samantha Fuller, qui lui a consacré un documentaire, Fuller Life. Et puis Jean Narboni, critique et historien du cinéma, qui signe Samuel Fuller, un homme affable, aux éditions Capricci. Il y aura encore Charlotte Garçon, qui, en fin d'émission, nous parlera tout particulièrement du port de la drogue. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Proust, par Antoine Compagnon.
Charles et Lucie ont plein de soucis, et plus d'oseille, ni plus de famille, ni plus d'amis. quand c'est la poisse qui vous menace. Y a guère qu'à deux qu'on peut lui crever la paillasse. Charles et Lucie ont plein de soucis, et plus d'oseille, ni plus de famille, ni plus d'amis. Y a des héros plein les bureaux, mais où sont ceux qui repartent un jour à zéro? La 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 la.